J'ai tout de suite envie de vous poser une question sur les disciplines, justement, c'est un peu notre fil rouge. Est-ce qu'il est possible de comprendre l'environnement d'un chercheur sans partager sa discipline avec lui et sans... Est-ce que vous avez plus de difficultés à comprendre ces environnements selon qu'il s'agit d'un anthropologue, je ne sais pas ce que vous avez eu comme discipline, sociologue peut-être
Alors,
Vas-y, je t'en prie, si tu veux.
mais en fait, on a choisi des gens, enfin, des anthropologues, des sociologues, des gens en lettres, ou des chefs de projet, mais aussi des chefs de projet scientifiques,
Oui, absolument.
parce qu'il y a eu, quand même, enfin, disons, dans une recherche antérieure que j'avais menée à Lyon, c'était sur des biologistes, enfin, c'était auprès de biologistes. Alors, le sentiment de familiarité intervenait beaucoup moins. Donc il y a beaucoup de choses qui échappaient. Par contre, du coup, ce qui était incompréhensible prenait un relief particulier. Enfin, tandis que là, en fait, on comprend des choses de manière assez intime, enfin, parce que ça peut résonner. Donc la production de connaissances, je dirais, elle est...
Et puis ça part à partir d'entretiens très longs, hein. C'est des entretiens de 3-4 heures qui permettent justement d'expliquer pourquoi il y a telle chose, ce qu'on garde, quel moment, etc. Et donc ça c'était très très riche comme matériau. Ce qui permettait globalement, alors il y a tout de même une familiarité assez évidente hein, pour la plupart je dirais des cas qu'on a observés. Alors c'est sans doute aussi parce que, y avait un lien d'une manière ou d'une autre, hein, ce qui amenait à une certaine proximité, une familiarité par rapport à ces éléments, mais... On avait aussi bien des gens qui étaient qui faisaient des études ou des thèses ou qui avaient fait des thèses en cinéma, que d'autres qui montaient un projet d'exposition, comme je le disais, à la Cité des Sciences, des sociologues, des chercheurs de manière plus générale, effectivement, en arts, lettres et langues, on pourrait dire, etc. À ce niveau-là, oui, je pense que ce n'est pas trop très complexe. C'est vrai qu'il y a un univers que tout le monde partage à ce niveau. Peut-être que dans certaines limites, ce serait plus intéressant. Alors, la bibliothèque de mathématiciens, je pense pas qu'on en avait. Hein,
Mais on pourrait, je pense que par contre, il faut se mettre à l'épreuve, alors c'est pour le coup cette fameuse interdisciplinarité, d'une compréhension des choses parce qu'on les reconnaît, voilà, et en même temps d'une sidération devant des pratiques que l'on ne comprend pas. Et c'est le fait d'avoir les deux qui montrent, je pense aussi, ou qui désignent ces problèmes de construction de l'objet par la distance, en fait, nous sautent à la figure parce qu'on voit aussi l'hétérogénéité des formes de construction de connaissances, peut-être pas par la discipline, mais par, disons, le partage intime de choses que l'on reconnaît, donc que l'on peut... Et d'un autre côté, le repérage de choses vraiment surprenantes qui posent question.
Interdisciplinarité comme étonnement, c'est une belle piste de
réflexion. Oui,
D'autres questions, interventions, oui.
Il y a à la fois cette recherche et il y a d'autres
Moi, j'aurais tendance à dire que la première partie, enfin, on n'avait pas envie de développer non plus un guide de bonne pratique. Hein. C'était vraiment pas l'objet dans un premier temps, en tout état de cause. D'autant plus qu'à mon sens, on ne peut pas avoir de bonne pratique. C'est toujours une bonne pratique par rapport en fait à un objet qu'on cherche. Et donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients à développer un certain nombre de dispositions. Et c'est ce que montrait aussi la recherche, c'est-à-dire que chacun s'organise. Je ne vais pas dire. Enfin. On n'a pas non plus sélectionné des chercheurs ratés, entre guillemets, pour savoir si c'est parce que ça ne marchait pas, etc. Ça pourrait être très intéressant dans un second temps. On s'est rendu compte en tout état de cause que c'était extrêmement riche, hein, et que ça nous a ouvert énormément l'esprit de réfléchir à ces éléments-là, parce que très clairement, je pense que tout chercheur a ce type de questionnement en tête. Et donc, c'est très excitant de voir comment d'autres font, parce qu'en fait, la plupart du temps, on n'en parle pas beaucoup de l'organisation.
Et par rapport, juste en phrase, c'est que, par exemple, il y a ceux qui réfléchissent en classant, et il y a ceux qui réfléchissent en fouillant dans le bazar. Et ça, c'est complètement, je dirais, orthogonal avec l'idée qu'il y aurait une norme de travail intellectuel qui passerait par une organisation excellente, parce qu'il y a une personne qui dit chaque fois que je cherche, tchac, enfin, elle se met au travail.
Fabrice.
Alors d'abord, j'adore parce que vous parlez de moi. J'adore qu'on parle de moi. Alors, je voulais faire un peu la même réflexion sur la notion de discipline qui revient sur les manières d'organiser. Je suis un peu informaticien et en termes de... si je vous dis, moi, encore une fois, je vais parler de moi. Moi, j'ai changé. J'imagine que ça, vous avez dû le rencontrer. Principalement, j'ai eu mes archives papier au début avec des photocopies, comme j'ai eu ma thèse dans les années avant 2000, donc voilà. Et je me suis rendu compte que mes archives papier ont disparu. En tant que, dans une autre vie, je suis linguiste, là j'ai d'autres pratiques, mais en tant qu'informaticien, j'ai très peu d'ouvrages en informatique. Parce que, alors ça peut-être que c'est on va dire une discipline emblématique pour ça, ça se périme très vite finalement. Ça se périme très vite d'un point de vue scientifique, je veux dire. On ne va pas utiliser des publications scientifiques d'il y a même 5 ans. Ça peut se faire. Moi, je vais garder les ouvrages. Je me suis acheté le CNUT, c'est The Art of Programming, l'algorithme, c'est le pape de l'informatique qui écrit un bouquin. On achète ses bouquins, on met dans la bibliothèque, c'est beau. Mais sinon, j'ai peu de choses comme ça. Donc, je pense que l'informatique a quelque chose de très particulier et les disciplines sont vraiment importantes pour ce genre de choses.
Bien sûr.
Et juste une parenthèse, je suis psychorigide sur mon bureau informatique et complètement sur mon bureau physique.
Ah oui, d'accord.
Et j'engueule déjà.
Je me disais aussi, ça me frappe parce que j'ai l'impression que chacun se fait aussi à cause de l'intense réflexivité sur la recherche, etc. À la fois, on a nos activités, etc. Et en même temps, on est tous potentiellement le témoin des évolutions de son temps qu'on est amené à prendre en charge d'une manière plus ou moins jusqu'à conserver des choses périmées au cas où aussi. Non seulement ça serait utile pour nous, nos étudiants, mais au cas où des individus s'intéresseraient un jour à des pratiques qui ont évolué.
J'ai fait un dossier en cours et un dossier old. Oui. Et dernièrement, j'ai fait un very old. Oui. Avec des mouvements.
Oui, je m'en prie.
Je suis intéressé de façon tout à fait pratique parce que vous avez dit pratique d'amateur de théâtre et d'opéra, spectacle en ligne. Oui. Vous avez fait quelque chose de...
Ben oui, oui. En fait,
j'ai un champ d'expérimentation pour vous, si vous voulez.
Oui, ben, c'est une recherche.
Bah non, je trouve ça passionnant également de pouvoir observer cette évolution des bureaux, aussi bien physique que numérique, comment ça va évoluer. Mais du coup, votre propre collection est sans fin. Parce que pour arriver à observer cette évolution au fil du temps, ou sinon par projet, quand il y a ceux qui vont faire place nette par projet, où on va, aussi bien dans le physique, décrocher des choses, post-it, images, posters, rajouter de nouvelles choses, bref, s'entourer de dossiers et de documents qui nous intéressent. Et du coup, votre recherche là, à terme, il faut également conserver tous les documents que vous allez mettre en place. C'est pour ça que je dis que votre propre collection ne pourrait jamais s'arrêter, parce que ça nous permettrait aussi de dresser la généalogie, la genèse de tel article de recherche, telle conférence, tel ouvrage. Il y a tout ça aussi qu'on pourrait fouiller potentiellement et qui pourrait intéresser des chercheurs dans X années, si vraiment il y a des articles qui ont marqué. Là, c'est pas... Je vois Zola. Ok, c'est pas un ouvrage de Zola, mais on pourrait en arriver là, finalement, travailler la génétique aussi des travaux de la recherche. Ouais.
Ah ben oui, et si on songe à quelques bureaux importants, alors quand on regarde d'ailleurs l'histoire même, hein, on se rend compte qu'on a conservé des bureaux de chercheurs, etc. Mmh. Mais le bureau de Freud, par exemple, ce qui me vient à l'esprit immédiatement, je veux dire, c'est une œuvre d'art à part entière et qui explique en partie aussi. Alors, et bon, voilà, on est dans le collectionnisme aussi de toute façon, mais en même temps, qui montre quelque chose de tout à fait fascinant. Et c'est vrai qu'en fait, le bureau est une machine à produire. C'est fascinant d'imaginer ce principe-là comme une sorte de prothèse qui est aussi une extension, d'une certaine manière, de sa manière de penser et de réfléchir, qui va donc se transformer aussi. Puisqu'on peut transformer ses propres prothèses, mais c'est assez fascinant. Et c'est vrai que on pourrait faire, c'est pour ça que je trouve que c'est un champ effectivement qui pourrait être poursuivi à l'infini, mais c'est peut-être tout à fait un angle d'attaque pour je dirais pour une étude de la pensée en quelque sorte de manière générale, c'est-à-dire que le bureau de Leibniz ou autre, ça peut être fascinant aussi.
Oui, il y a quelques demandes. Oui, je crois
que vous voulez parler. Je me demandais, parce que souvent aujourd'hui, surtout dans la chaire de recherche d'écriture numérique dans laquelle je fais partie, les gens sont obsédés à l'idée de travailler justement dans l'environnement digital, mais du coup passent des journées entières à chercher un éditeur de texte adapté, un moyen de prise de notes qui pourrait être agréable pour un chercheur, comment s'organiser finalement. Et je me demandais si vous aviez vu ce questionnement, puis surtout des solutions potentielles qui auraient été trouvées par certains chercheurs pour passer au numérique entièrement, ou comment est-ce que les gens s'organisent, est-ce qu'il y a des choses qui faciliteraient. Je sais qu'ils ont comme créé ce desktop qui est en fait un vrai bureau où on peut poser des fichiers, on peut les écrabouiller, les jeter dans un coin de son bureau, on peut accrocher des choses au mur, etc. Et ça, c'est un passage un peu trop réaliste à mon avis d'un bureau à un bureau virtuel physique. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous avez rencontrées, que vous avez trouvées intéressantes ?
Alors, on a deux cas de personnes qui justement passent beaucoup de temps à s'organiser pour trouver les applications, les plateformes, et après garder en mémoire tout ce qu'elles y font. Après, alors, je ne dirais pas qu'on a affaire à des gens qui savent comment faire ou qui peuvent s'ériger en modèle de... Par rapport à ça, juste un truc, c'est que on parlait du bureau, etc. Et en fait, il y a vraiment toute cette vogue-là des espaces qui sont de plus en plus réduits, où chacun a un caisson. Et en fait, c'est incroyable de... le contraste qu'il y a entre cette volonté d'arracher des personnes à un environnement physique, quoi, et en contraste l'effort qui est fait par les individus pour se reconstituer, que ce soit physiquement ou numériquement, un milieu de production.
Vous vouliez poser une question ?
Oui, la conférence m'a évidemment amené à réfléchir sur les écrivains, plutôt sur le domaine de la génétique des textes et justement à la genèse de la création. Et tout ce que vous disiez par rapport aux chercheurs faisait évidemment écho à certains écrivains contemporains sur lesquels je travaille et qui justement naviguent entre ce bureau physique et ce bureau virtuel. D'autant plus pour ceux qui ont été amenés à migrer régulièrement dans le contexte politique, et du coup, ils ont beaucoup jeté et beaucoup transféré dans l'espace numérique leurs outils de recherche. Et ça m'a rappelé un texte de Fernand de Blasi, comme on est journée consacrée au patrimoine, qui a attiré notre attention sur la préservation de ce patrimoine numérique. Parce que, évidemment, comme les lieux de conservation traditionnels qui étaient l'habitat ne bougeaient peu autrefois, les boîtes, les cartons, les greniers, etc., ont tendance à disparaître, qu'est-ce qu'on met, nous, en place pour préserver aussi ce que ces écrivains... Je parle des écrivains de l'État qui m'intéressent, mais pour récupérer les archives que eux dispersent entre des Dropbox et des Google Drive dans leurs disques durs. Vous parlez de chercheurs qui ont pensé à conserver les disques durs et les lecteurs de certaines machines qu'ils ont utilisées il y a 20 ans. Ce n'est pas toujours le cas des écrivains. Et De Biasi, dans son article, nous interpellait sur la préservation de ce patrimoine numérique et sur cette mémoire éphémère à laquelle on ne prête pas attention. Alors, il disait éphémère non pas par rapport à ça, mais par rapport au programme qui change tous les 2-3 ans et que, par conséquent, il faut pouvoir avoir pour relier ces documents. Tout ça pour dire que ça m'a beaucoup intéressé.
Très bien. Mais